8e arrondissement. Karadec alluma son clignotant, abaissa son pare-soleil et se gara sur une zone de livraison, place Saint-Philippe-du-Roule. La maison Spontini tenait boutique dans un emplacement vitré tout en longueur à l'angle de la rue de la Boétie et de l'avenue Franklin Roosevelt. Store couleur chocolat, lambrequin doré, la boulangerie-pâtisserie se voulait haut de gamme, proposant un éventail sophistiqué de pains et de viennoiseries. Marc passa la porte et observa les vendeuses qui, dans ce quartier d'affaires, se préparaient au coup de feu de midi, disposant derrière les vitrines sandwichs, tartes aux légumes et salades sous vide. Le spectacle réveilla sa faim. Le retour inopiné de Raphaël lui avait fait sauter son petit déjeuner et il n'avait rien avalé depuis la veille. Il commanda un sandwich au jambon de Parme et demanda à parler à Manuel Spontini. D'un geste du menton, la serveuse le renvoya vers le bistrot d'en face. Karadec traversa la rue. Installé en terrasse, en manche de chemise, Manuel Spontini lisait l'équipe devant un demi de bière. Un cigarillo à la bouche, des Ray-Ban sur le nez, il arborait rouflaquettes et cheveux en broussailles qui lui donnaient des airs du Jean-Yann des films de Chabrol ou de Piala.
Manuel Spontini, on peut discuter 3 minutes.
Karadec s'imposa par surprise, s'asseyant devant lui, posant ses coudes sur la table, comme pour le défier au bras de fer.
Mais qui êtes-vous, bon Dieu ? Glapit le boulanger dans un mouvement de recul. Capitaine Karadec, BRB. Je mène une enquête sur Anna Becker. Connais pas.
Impassible, Marc lui présenta la photo d'Anna sur l'écran de son téléphone.
Jamais vu. Je te conseille de regarder plus attentivement.
Spontini soupira et se pencha sur l'écran.
Belle petite poupée Black, je me la taperai bien.
Avec une vitesse foudroyante, Karadec saisit Spontini par les cheveux et lui plaqua la tête sur la table en métal, faisant valser le verre de bière qui se brisa sur le trottoir. Les cris du boulanger attirèrent le garçon de café.
« J'appelle la police !»«
C'est moi la police, petit !»
répliqua Marc en dégainant sa carte de sa main libre.
« Apporte-moi plutôt un Perrier !»
Le serveur détala. Karadec relâcha son étreinte.
« T'as failli me péter le nez, putain !» gémit Spontini. « Ta gueule. Parle-moi d'Anna. Je sais que tu lui as loué une chambre. Raconte-moi. »
Spontini attrapa une poignée de serviettes en papier pour éponger le sang qui coulait de sa narine gauche.
« Il s'appelait pas comme ça. »
« Explique. »
« Son nom, c'était Pagès. Pauline Pagès. »
Comme on abat un atout à la belote, Karadec jeta sur la table la fausse carte d'identité d'Anna. Spontini prit le document et l'observa.
« Ouais. » C'est cette carte qu'elle m'a montrée, la première fois que je l'ai vue.
C'était quand ?
J'en sais rien.
Fais un effort.
Alors qu'on apportait à Marc son Perrier, Spontini replongea dans ses souvenirs. Après avoir mouché du sang, il se mit à réfléchir à voix haute.
L'élection de Sarko à la présidentielle, c'était quand ?
Mai 2007.
Ouais. Dans l'été qui a suivi, il y a eu un violent orage sur Paris qui a inondé notre immeuble. Il a fallu refaire une partie du toit et rénover les chambrettes. Le chantier a été terminé à l'automne. J'ai mis une annonce dans mes 3 magasins et ta jolie Barbie métisse a été la première à se présenter.
Donc c'était quel mois ?
Octobre, je dirais. Fin octobre 2007, au plus tard début novembre.
Le loyer, tu le déclarais ?
Tu m'as bien regardé, mec ! Avec tout ce qu'on nous raquette, tu voudrais que je déclare une chambre de 12 mètres carrés ? C'était du black. 600 euros cash par mois, à prendre ou à laisser. Et la fille a toujours payé.
En 2007, elle était mineure. Elle devait avoir 16 ans.
C'est pas ce que disaient ses papiers.
Ses papiers étaient faux, et tu t'en doutais.
Manuel Spontini haussa les épaules.
Qu'elle ait eu 15 ou 19 ans, je vois pas ce que ça change. J'ai pas cherché à la sauter. Je lui ai juste loué une chambre.
Agacé, il fit grincer sa chaise sur le goudron et essaya de se lever. Mais Karadec le retint par le bras.
La première fois que tu l'as vue, elle était comment ?
J'en sais rien, bordel ! Ça remonte à presque 10 ans.
Plus vite tu me réponds, plus vite on en aura terminé.
Spontini poussa un long soupir.
Un peu craintive, un peu à l'ouest. D'ailleurs, les premières semaines, je crois qu'elle quittait presque jamais sa piole, comme si elle avait peur de tout.
Continue. Lâche-moi encore 2 ou 3 infos et je me tire.
Je sais pas. Elle disait qu'elle était américaine, mais qu'elle venait à Paris pour faire ses études supérieures.
Comment ça, américaine ? Tu l'as cru ?
Elle avait un accent yankee, en tout cas. La vérité, c'est que je m'en foutais. Elle m'a versé 3 mois de loyer d'avance. C'est tout ce qui m'importait. Elle prétendait que c'était ses parents qui payaient.
Ses parents, tu les as rencontrés?
Non. J'ai jamais rencontré personne. Ah si, une blonde, un peu bourge, qui venait lui rendre visite quelquefois. La quarantaine, le genre tailleur cul serré. Celle-là, je me la serais bien enfilée, par contre. Le genre Sharon Stone ou Gina Davis, tu vois le truc?
Tu connais son nom?
Le boulanger secoua la tête. Karadec enchaîna.
Revenons à la fille. Elle aurait pu tremper dans un truc louche.
Comme quoi?
Drogue, prostitution, racket.
Spontini ouvrit des yeux ronds.
Je crois que tu y es pas du tout, mec.
Si tu veux mon avis, c'était juste une fille qui voulait étudier et vivre tranquille. Une fille qui voulait plus qu'on l'emmerde.
D'un signe de la main, Marc libéra le boulanger. Lui-même resta encore un instant assis sur sa chaise, digérant les informations qu'il venait de glaner. Il allait repartir lorsque son téléphone vibra. Mathilde Francins. Il décrocha.
T'as mes infos?
J'ai trouvé le dossier d'Anna Becker, oui. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que tu m'en as dit. Si j'en crois mes données, cette fille est...
4. J'ai toujours redouté ce moment. Je savais qu'il viendrait, mais je ne pensais pas qu'il prendrait cette forme. Clotilde Blondel était assise derrière un plateau de verre posé sur deux tréteaux chromés. Dominant la cour, son bureau à la décoration contemporaine tranchait avec le côté séculaire de Sainte-Cécile. Je m'étais attendu à des meubles du 18e, une bibliothèque au rayonnage débordant de Pléiades et de vieilles bibles reliées. Je me retrouvais dans une pièce dépouillée au mur blanc. Sur le bureau, un ordinateur portable, un smartphone dans un étui de cuir, un cadre photo en bois clair, la reproduction d'une statuette sensuelle de Brancusi. Madame Blondel, depuis quand connaissez-vous Anna? La directrice me regarda droit dans les yeux, mais au lieu de me répondre, elle me lança comme un avertissement. Anna est follement amoureuse de vous. C'est la première fois que je la vois éprise de quelqu'un, et j'espère pour vous que vous méritez cet amour. Je répétai ma question, mais elle l'ignora à nouveau. Lorsqu'Anna m'a demandé mon avis, je lui ai conseillé de vous avouer la vérité. Mais elle avait peur de votre réaction, peur de vous perdre. Un silence. Puis elle murmura, comme pour elle-même. Sabato avait sans doute raison. La vérité est parfaite pour les mathématiques et la chimie, mais pas pour la vie. Je m'agitai dans mon fauteuil. À l'évidence, Clotilde Blondel savait beaucoup de choses. Pour la mettre en confiance, je décidai de ne rien lui cacher et lui raconter tout ce que j'avais trouvé chez Anna. Les 400 000 euros et les fausses cartes d'identité au nom de Magali Lambert et de Pauline Pagès. Elle m'écouta sans marquer de surprise, comme si je lui rappelais un simple souvenir oublié qui refaisait surface, charriant avec lui un parfum inquiétant. Pauline Pagès. C'est sous ce nom que s'est présentée Anna la première fois que je l'ai vue. Nouveau silence. Elle se saisit d'un sac à main, posé sur un tabouret à côté d'elle, et en sortit un paquet de cigarettes longues et fines. Elle en alluma une avec un briquet laqué. C'était le 22 décembre 2007, un samedi après-midi. Je me rappelle précisément la date parce que c'était le jour de la fête de Noël de l'école. Un moment très important pour notre institution. Chaque année, nous réunissons nos élèves et leurs parents pour célébrer ensemble la naissance du Christ. Sa voix avait à présent des intonations denses et granuleuses. Une voix de fumeuse. Ce jour-là, il neigeait, reprit-elle, en exhalant des volutes de fumée mentholées. Je me souviendrai toute ma vie de cette jeune fille, belle comme le diable, qui débarquait de nulle part, sanglée dans son imperméable mastic.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Avec un léger accent qu'elle essayait de masquer, elle m'a raconté une histoire. Une histoire qui se tenait, ou presque. Elle prétendait être la fille de coopérants français, expatriés au Mali. Elle m'a dit qu'elle avait fait une bonne part de sa scolarité au collège et lycée français de Bamako, mais que ses parents souhaitaient qu'elle passe son bac à Paris. C'était pour cette raison qu'ils voulaient l'inscrire à Sainte-Cécile. Pour accompagner cette demande, elle m'a tendu une enveloppe contenant une année de frais de scolarité, soit environ 8000 euros.
Toute son histoire était fausse?
Entièrement. J'ai appelé le lycée français de Bamako pour qu'il me faxe son exéat, un certificat de radiation indispensable pour inscrire un nouvel élève. Il n'avait jamais entendu parler d'elle. Je nageais en plein brouillard. Plus j'avançais dans mes investigations, plus l'image d'Anna se dérobait. Clotilde Blondel écrasa sa cigarette.
Le lendemain, je me suis rendu à l'adresse qu'Anna m'avait indiquée. Une chambre de bonne qu'elle louait, rue de l'université. J'ai passé la journée avec elle, et j'ai tout de suite compris que c'était le genre de personne que vous ne croisez qu'une fois dans votre vie. Un être solitaire, mi-femme, mi-enfant, en quête de reconstruction, mais déterminée à réussir. Elle n'était pas venue à Sainte-Cécile par hasard. Elle avait un projet professionnel précis, devenir médecin. Une intelligence hors norme et de grandes capacités de travail qui avait besoin d'un cadre pour s'épanouir. Donc, qu'avez-vous décidé? Quelqu'un frappa à la porte de son bureau, le proviseur adjoint qui se débattait avec un problème de gestion des emplois du temps. Clotilde lui demanda de patienter un instant. Au moment où il refermait la porte, elle m'interrogea. « Raphaël, vous connaissez l'évangile de Matthieu? Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'était mon devoir de chrétienne d'aider Anna, et l'aider à ce moment-là signifiait la cacher. La cacher de qui? De tout le monde et de personne. C'est justement là que résidait la difficulté. Concrètement? Concrètement, j'ai accepté de scolariser Anna sans l'inscrire sur les registres de l'académie pour qu'elle puisse terminer son année scolaire de première avec nous. Sans lui poser davantage de questions. Je n'avais pas besoin de lui poser des questions. J'avais découvert son secret par moi-même. Et c'était quoi? Je retins mon souffle. Enfin, j'effleurai la vérité. Mais Clotilde Blondel doucha mes illusions. Ce n'est pas à moi de vous le dire. J'ai juré à Anna que je ne révélerai pas son passé, et c'est une promesse que je ne trahirai jamais. Vous pourriez m'en dire un peu plus. Inutile d'insister. Vous n'obtiendrez rien de plus de moi de ce côté-là. Croyez-moi, si un jour vous devez apprendre son histoire, il sera préférable que ce soit de sa propre bouche et non de celle de quelqu'un d'autre. Je réfléchissais à ce qu'elle venait de me dire. Quelque chose ne collait pas. Avant de pouvoir vivre de mes romans, j'ai été prof quelques années. Je connais le système. En classe de première, vous ne pouvez pas passer les épreuves anticipées du bac si vous n'êtes inscrit nulle part. Elle hocha la tête. Vous avez raison. Anna n'a pas passé ses épreuves cette année-là. Mais c'était reculer pour mieux sauter. Le problème restait entier pour la terminale, non? Oui. Cette fois, plus moyen de se dérober. Si Anna voulait faire des études supérieures, elle devait réussir son bac. Elle alluma une autre cigarette et tira plusieurs bouffées fébriles avant de poursuivre. Pendant l'été qui a précédé la rentrée scolaire, j'étais désespéré. Cette histoire me rendait malade. Désormais, je considérais Anna comme faisant partie de ma famille. Je lui avais promis de l'aider, mais j'étais face à un problème en apparence insoluble, et nous courions à la catastrophe. Elle baissa les yeux. Son visage s'était crispé, donnant l'impression de revivre ces moments douloureux. Mais il y a toujours une solution, et comme bien souvent, elle se trouve devant vos yeux. Joignant le geste à la parole, elle souleva le cadre photo posé sur le bureau devant elle. Je pris l'objet qu'elle me tendait et scrutai le cliché sans comprendre. « Qui est-ce ? » demandai-je. « Ma nièce, la véritable Anna Baker. » 5. Marc Karadec fonçait. Depuis qu'il avait quitté Paris, le flic avalait les kilomètres sans se préoccuper du code de la route. Il voulait, il devait vérifier de visu les informations de Mathilde Francins, son amie de la sécu. Il klaxonna un poids lourd qui essayait d'en doubler un autre et se rabattit au dernier moment pour attraper la sortie de l'autoroute. La spirale de la bretelle en béton lui donna l'impression que sa voiture plongeait dans le vide. Vertige. Oreille qui bourdonne. Le sandwich qu'il avait avalé en conduisant lui avait donné la nausée. Pendant quelques secondes, il se sentit perdu au milieu du nœud autoroutier. Puis il retrouva progressivement ses esprits, se raccrochant aux indications fournies par son GPS. Un rond-point à l'entrée de Châtenay-Malabry, puis une route étroite qui partait vers le bois de Verrières. Marc ne se détendit pleinement qu'à mesure que la nature gagnait sur le béton. Il baissa sa vitre lorsqu'il se retrouva entouré par les châtaigniers, les noisetiers et les érables. Une dernière portion de route sablonneuse et l'édifice surgit devant lui. Il gara le Range Rover sur une aire de parking, en gravier stabilisé, et claqua la portière. Les mains derrière le dos, il resta quelques instants à contempler le bâtiment, issu d'un mélange déroutant entre vieilles pierres et matériaux plus modernes, fer, métal, béton translucide. L'ancien hospice, deux fois centenaire, avait été modernisé, massacré, pensa Karadec, par l'installation sur les toits de panneaux solaires photovoltaïques et d'un mur végétalisé. Le flic se dirigea vers l'entrée de la structure. Hall presque désert, personne derrière le comptoir d'accueil. Il feuilleta les prospectus qui se trouvaient devant lui et qui présentaient l'établissement. Le foyer d'accueil médicalisé Sainte-Barbe accueillait une cinquantaine de patients polyhandicapés ou atteints de syndromes autistiques. Des accidentés de la vie, n'étant plus autonomes et dont l'état de santé nécessitait des soins constants. « Je peux vous aider ?» Karadec se retourna en direction de la voix qui l'interpellait. Une jeune femme en blouse blanche était en train d'insérer des pièces de monnaie dans un distributeur.
« Police, Marc Karadec, capitaine à la BRB », se présenta-t-il en la rejoignant.
Malika Ferchichi, je suis l'une des aides médico-psychologiques du foyer. La beurette appuya sur le bouton pour récupérer son soda, mais la machine se bloqua.
Encore HS. Bon sang, ce truc a dû me piquer l'équivalent d'une demi-paix.
Marc empoigna l'appareil et se mit à le secouer. Au bout de quelques secondes de ce traitement, la canette finit par tomber dans le sas de récupération.
Au moins, vous aurez celle-là,
dit-il en lui tendant son Coca-Zéro. Je vous dois un service.
Ça tombe bien parce que j'en ai un à vous demander. Je suis ici pour vérifier des informations sur une de vos patientes.
Malika décapsula sa boisson et en prit une gorgée. Pendant qu'elle buvait, le flic détailla sa peau mate, sa bouche ourlée de rose, son chignon strict, ses yeux taillés dans du saphir. J'aurais aimé vous renseigner, mais vous savez très bien que je n'en ai pas le droit. Adressez-vous au directeur qui...
Attendez. Pas la peine de mettre en branle toute la machine administrative pour un simple contrôle.
Malika le regarda d'un air goguenard. Bien sûr. Comme ça, vous pouvez agir tranquillement, hors procédure. Elle prit une nouvelle gorgée. Je connais les petites ruses des flics. Mon père est de la maison, comme vous dites.
Il bosse dans quel service?
Brigade des stupes. Karadec réfléchit un instant.
Vous êtes la fille de Selim Ferchichi?
Elle hocha la tête. « Vous le connaissez ?»«
De réputation. »
Malika regarda sa montre. « Il faut que je retourne travailler. Ravi d'avoir fait votre connaissance, capitaine. » Sa canette à la main, elle s'éloigna dans un couloir de lumière, mais Karadec la rattrapa.
« La patiente dont je vous parle s'appelle Anna Baker. Vous pouvez juste me conduire à elle. »
Ils traversèrent un patio étroit, encombré d'une profusion de plantes grasses, de haies de bambou, de cactus et de palmiers nains. Si vous avez l'intention de l'interroger, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ils arrivèrent dans un jardin ensoleillé qui ouvrait sur la forêt. Des patients et des aides-soignants terminaient leur repas sous l'ombre des érables et des bouleaux.
Je vous promets que je ne chercherai pas à l'interroger. Je veux seulement savoir si...
Malika pointa son index vers la forêt. C'est elle, là-bas, dans le fauteuil.
Anna Baker.
Karadec mit sa main en visière pour se protéger de la luminosité. Assise dans un fauteuil électrique, une jeune femme d'une vingtaine d'années regardait le ciel, un casque sur les oreilles. Engoncée dans un pull à col roulé, elle avait un visage hexagonal, étoffé de cheveux blonds roux, retenue par des barrettes de petite fille. Derrière des lunettes de couleur, ses yeux étaient immobiles, perdus dans le vague. Malika reprit la parole. C'est son occupation favorite, écouter des livres audio.
Pour s'évader?
Pour voyager, pour apprendre, pour rêver. Il lui en faut au moins un par jour. Vous allez m'arrêter si je vous dis que je lui en télécharge des tonnes sur Internet?
De quoi souffre-t-elle exactement?
Le flic sortit son carnet pour relire ses notes.
On m'a parlé de la maladie de Friedreich, c'est ça?
L'ataxie de Friedreich, corrigea Malika. C'est une maladie neurodégénérative, une affection génétique rare.
Vous connaissez Anna depuis longtemps?
Oui, je faisais des remplacements au centre médico-éducatif de la rue Palatine, où elle est restée jusqu'à ses 19 ans. Mal à l'aise, Karadec chercha son paquet de clopes dans la poche de son blouson.
À quel âge a-t-elle été diagnostiquée?
Très tôt, je dirais vers 8 ou 9 ans.
Cette maladie, ça se manifeste comment?
Des troubles de l'équilibre, la colonne vertébrale qui se tord, les pieds qui se déforment, la coordination des membres qui fout le camp.
Chez Anna, comment les choses ont-elles évolué ?
Offrez-moi une cigarette. Marc s'exécuta et se pencha vers la jeune femme pour la lui allumer. Une odeur fraîche montait de son corps. Citron, muguet, basilic. Une onde verte troublante et excitante. Elle porta la cigarette à ses lèvres, en aspira une bouffée avant de poursuivre. Anna a perdu assez tôt l'usage de la marche. Puis, vers l'âge de 13 ans, la maladie s'est à peu près stabilisée. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'ataxie de Friedreich n'attaque pas les capacités intellectuelles. Anna est une jeune femme brillante. Elle n'a pas fait d'études au sens classique du terme, mais jusqu'à très récemment, elle passait ses journées devant un ordinateur, à suivre les MOOC, des cours en ligne de développement informatique.
Mais la maladie a repris sa progression, enchaîna Karadec.
Malika approuva de la tête. À partir d'un certain stade, on redoute surtout les complications cardiaques et respiratoires, comme les cardiomyopathies qui épuisent le cœur. Karadec poussa un grognement et respira bruyamment. Il sentit la colère monter en lui. La vie était une vraie salope. Lors de la distribution des cartes, elle servait à certains un jeu trop difficile à jouer. Cette injustice lui enflamma le cœur. Il ne la découvrait pas, mais depuis ce matin, il était devenu plus vulnérable, à fleur de peau. C'était comme ça quand il était pris par une enquête. Les sentiments, le désir, la violence décuplaient en lui. Un volcan avant l'éruption. Malika devina son trouble. Même s'il n'existe pas de véritable traitement, nous essayons d'assurer aux patients la meilleure qualité de vie possible. Les séances de kiné, d'ergothérapie, d'orthophonie, de psychothérapie sont très utiles. C'est tout le sens de mon boulot. Marc restait silencieux, immobile, laissant sa cigarette se consumer entre ses doigts. Comment une telle substitution d'identité avait-elle été possible ? Certes, du point de vue de la sécurisation des informations, il était bien placé pour savoir que l'assurance maladie était une grande passoire. Des dizaines de millions d'euros de fraude, une carte vitale qui n'avait aucune crédibilité. Mais il n'avait jamais eu connaissance d'un stratagème aussi élaboré. Cette fois, il faut vraiment que j'y aille, le prévint Malika.
Je vous laisse mon portable, au cas où.
Tandis qu'il notait son numéro pour Malika, Marc posa une dernière question.
Est-ce qu'Anna reçoit beaucoup de visites ?
Essentiellement sa tante, Clotilde Blondel, qui vient la voir tous les deux jours, ainsi qu'une autre jeune femme métisse, les cheveux raides, toujours bien sapée. Karadec lui montra l'écran de son téléphone. « Oui, c'est elle », confirma Malika. « Vous connaissez son nom ? »